This is Algeria.
يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها.
La France doit-elle rester en Algérie?
Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer.
ثورة تنفجر على مر
الأيام. L'importance des mouvements vers le noir.
Et d'une nouvelle révolte des Chaouias.
Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires.
En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Mujahideen.
Mujahideen, مناظرين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية.
This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence.
فاشهدوا. Histoire et mémoire.
Amis auditrices et auditeurs, bonjour Rachida Mansouf.
Bonjour Sarah Dinal.
Bonjour Fatema Sabri.
Bonjour Fatema.
Après nous avoir entretenus du code de l'indigénat, le duo d'enfer Bedi Ahdad et Dahou Djerbel reviennent sur quelques aspects anecdotiques de la mission civilisatrice de la France. Quant à notre frère Abdou Sayah, c'est avec Riyad Kessri, fils de la Rose d'Algérie, qu'on apprendra quelques épisodes inédits de la diva algérienne. Ce sera dans Art et Révolution. Dans la chronique adossée à l'espace Hiwar, ils étaient jeunes, ils ont adhéré à une école du patriotisme, les scouts musulmans algériens. On les retrouvera dans Bekri de Lamia Mahfouf. Et dans Hiwar, nous retrouverons notre invité du jour, Monsieur Sadek Hajras, et ce sera juste après le billet de Rachida Mansouf.
Le billet de Rachida Mansouf.
On a dit d'eux qu'ils étaient la pépinière du PPA, le Parti du Peuple Algérien, celui qui succède à l'étoile nord-africaine et qui reprend sa revendication de 1926, l'indépendance de l'Algérie. La colonne vertébrale radicale du nationalisme algérien qui mena à l'insurrection du 1er novembre. Le premier martyr du 8 mai 1945, qui portait ce jour-là à Sétif le drapeau algérien, fut l'un d'entre eux, un scout des SMA, des scouts musulmans algériens. Appelé ainsi pour se différencier des EDF, des éclaireurs de France, les laïcs qui existent en Algérie depuis 1914, des éclaireurs indépendants nord-africains, des éclaireurs indépendants nord-africains, une scission de ceux-là, des éclaireurs unionistes de France, les EDF, organisation protestante, née en 1922. Suivi par les SDF, les Scouts de France, organisation catholique, et en 1929, les Guides de France, les GDF pour les femmes catholiques, et la Fédération française des éclaireuses, les FFE, pour femmes laïques, sans compter l'association Amina des Pères Blancs. Le premier groupe de SMA fut créé à Alger en 1935 par Mohamed Bourras de Miliana, proche du Cercle du Progrès, animé par Cheikh Al-Oqbi, membre des ulamas. Il sera exécuté en 1941, pendant que Omar Lara créait les EMA, les éclaireurs musulmans algériens, avant qu'ils ne fusionnent. D'autres groupes ont suivi, à Constantine, Annaba, Mstranem, Miliana. Les adhésions sont très nombreuses, rapidement, et les SMA deviennent un mouvement de jeunesse que les autorités françaises surveillent de près, parce qu'ils y repèrent des accents nationalistes qui menacent l'ordre établi. Mais que sont les jeunes, dits musulmans, ces années-là, au milieu des années 30? Ils sont majoritairement livrés à la rue. 10% à peine sont scolarisés et bloqués de toute façon à 90% au cours fin d'études. Les autres sont les petits cireurs du « Sirimsio », les porteurs de couffins des madames, des « Bonjour madame, tchéri la dame », des vendeurs de journaux à la criée ou à domicile. Leurs pères sont des dockers, des marchands ambulants, mais surtout des chômeurs, et leurs mères, souvent, femmes de ménage, des Fatmas. Ces enfants-là étaient à l'école de la rue. Et la rue, ces années-là, était bouillonnante. Les colons avaient été touchés par la crise mondiale et la baisse des prix de leurs produits. La misère s'était généralisée dans les campagnes et avait jeté sur les routes de longs convois d'hommes, de femmes et d'enfants affamés. Beaucoup d'entre eux venaient chercher dans les villes quelques moyens de subsistance et s'entasser dans les bidonvilles insalubres et tentaculaires. Les élites, elles, cherchaient une issue à un ordre qui devenait plus intolérable que jamais. En France, ce fut le Front populaire, un régime de gauche, et les oulamas, les élus, les communistes et les socialistes sont pris d'espoir de se faire entendre, de Fafa, Madame la France. Ils se réunissent à Alger, au Majestic, devenu la salle Atlas, pour élaborer des revendications sociales, économiques et politiques qu'ils vont porter à Paris. Au retour des délégués sans résultat aucun, un meeting est organisé au stade municipal d'Alger. Oum Sali Hadj, grand orateur, prend la parole. Il se baisse, s'empare d'une poignée de terre et déclare « Cette terre n'est pas à vendre ». Intervention radicale qui répond au ras-le-bol général et à la déception politique. Les scouts musulmans algériens, sous la double influence des oulamas d'une part et du PPA-MTLD, vont peu à peu devenir le porte-voix du nationalisme radical. Ils refusent de lever ou de saluer les couleurs de la France. Ils vont adopter les chants nationalistes arabes, ceux des partisans qu'ils traduiront plus tard, avant de créer leurs propres textes qui seront repris en symboles identitaires revendicatifs d'une patrie libre et indépendante.
Merci Rachida Mansouf. Billet très émouvant, franchement. Ça, ça donne la chair de poule quand on... Effectivement, retracer ces années 30, et la misère, on n'imagine pas la misère qu'il y avait dans les années 30, où le pain était un rêve.
Encore une fois, Mohamed Dib en parle très très bien dans La Grande Maison, Le Métier à Tisser. Il y a des passages absolument extraordinaires qu'on a jugés prémonitoires d'ailleurs par rapport à la guerre de libération nationale.
Oui. On retrouve notre invité dans notre espace Hiwar dans quelques instants.
Très bien.
Hiwar.
Monsieur Sadek Hajras, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Rachida Mansouf, bonjour.
Oui, bonjour et bonjour. Merci, merci infiniment.
C'est moi qui remercie.
Alors, monsieur Hajras, ce n'est pas sans difficulté, je vous l'avoue, que je vais essayer de résumer votre parcours, tant il est riche, pour nos jeunes auditrices et auditeurs. Donc, vous êtes né en 1928 à l'Erbaa Nathiraten, école primaire à Brouagia, secondaire à Mdia, Blida et Alger Ben Aknoun, puis des études de médecine à Alger. Lycéen, vous êtes responsable dans la Mitidja des scouts musulmans algériens. En 1944, vous adhérez au Parti du peuple algérien, MTLD à partir de 1946. À partir de 1947, vous êtes l'un des principaux animateurs de l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, AEMAN, dont vous serez président élu, on précise bien, en 1949-50. 1949, vous quittez le MTLD suite à ce qui était appelé la crise berbériste et autres qualificatifs que vous remettez d'ailleurs en cause. 1951, adhésion au Parti communiste algérien, PCA, membre du bureau politique en 1955, l'interdiction du PCA pendant la guerre vous contraint de cesser vos activités de médecin praticien et chercheur universitaire pour entrer dans la clandestinité. Condamné par contumace aux travaux forcés, responsable national adjoint des combattants de la libération, les CDL, des rencontres sont organisées au printemps 1956 entre le PCA, représenté par Bachir Hadj Ali et vous-même, et le FLN, représenté par Ben Ramdan et Ben Youssef Ben Khadda. L'opération Henri Maillot a facilité, entre guillemets, les accords. Indépendance, reprise des activités médicales et de recherche, et au parti PCA, interdit dès novembre 62 par Ben Bella. 19 juin 1965, coup d'état de Boumediene, vous reprenez le chemin d'une longue clandestinité de 24 ans. Le PCA devient parti d'avant-garde socialiste en 1966, dont vous serez le premier secrétaire en 1967. Vous revenez à la vie légale en 1989, suite aux événements d'octobre 88 qui ont permis le multipartisme. 1992, fin de vos activités partisanes et c'est l'exil. Depuis, vous vous consacrez à des travaux de recherche, à l'écriture. Aujourd'hui, le premier tome de vos mémoires, intitulé « Quand une nation s'éveille », 1928-1949, publié par Inès Éditions avec la collaboration de l'historienne Melika Rahel, il est disponible dans toutes les librairies algériennes. Alors évidemment, il faudrait des heures d'émission avec vous hein, pour aller au fond des choses, ce que notre magazine Fashhadou, Histoire et Mémoire, ne peut malheureusement pas faire. Si vous le permettez, Monsieur Sedr Hadjeres, on va évoquer des aspects, des thématiques que vous avez développées dans ce premier tome de vos mémoires, limité aux années, je rappelle, 1928-1949.
Vous pouvez y aller.
Eh bien, le premier thème sera sur la question de l'enseignement, de l'école, de l'école, sachant que l'école a été rendue obligatoire en 1883 en Algérie, donc suite à la loi Ferry. Et au début, c'était évidemment, le peuple avait peur de la dépersonnalisation, donc envoyer des parents faire en sorte que leurs enfants n'aillent pas à l'école, mais les choses, entre-temps, avec le temps, vont changer.
Effectivement, c'est le cas. C'est bien que vous évoquiez ce problème d'enseignement, parce que la génération qui va faire l'insurrection, en fait, elle a été formée à deux écoles, l'école française et l'école arabophone, disons, qui, chacune à sa façon, a forgé l'esprit de résistance, c'est ce que j'explique dans le cours du livre, avec des évolutions particulières. Vous avez bien fait de souligner comment, au début, mon arrière-grand-père, Sid Bachir, voulait absolument empêcher son fils d'aller à l'école, qu'il considérait comme une arme de dépersonnalisation. Et puis, en fait, son fils, mon grand-père, c'est Mohamed Saïd, est devenu un des premiers enseignants instituteurs en langue française. Vous verrez dans l'ouvrage une illustration, lorsqu'il enseigne l'arboriculture à ses élèves. Et c'est la légende était que un fils des insurgés de 1871 passe le savoir à ceux qui vont déclencher l'insurrection. Cette image m'a paru tout à fait significative des évolutions. Alors, ceux qui liront le livre verront les particularités de chacun de ces enseignements, francophones et arabophones. L'un nous permettant de nous enraciner dans nos traditions, par conséquent, nous a permis de garder un sentiment de dignité, de personnalité face à l'œuvre de dépersonnalisation, et le second nous ouvrant les horizons, c'est-à-dire les armes qui allaient nous permettre de nous libérer. Vous trouverez aussi une indication en ce qui concerne la formation psychique, disons, de ces générations, parce qu'il est bien vrai que les événements politiques, historiques et autres sont beaucoup le résultat de l'enfance et de l'éducation reçue, quelle qu'elle soit. Et ce que certains auteurs se plaisent à souligner, en quelque sorte, l'opposition fondamentale, irréductible, entre le monde musulman et le monde occidental, serait, selon certains, le résultat d'une caractéristique de l'islam, fanatisme, conservatisme, etc. En fait, j'indique bien, avec des explications et puis avec tout le contexte civilisationnel européen, comment l'enseignement européen lui-même a contribué à créer cette opposition avec une connotation de mépris, évidemment, envers la population algérienne musulmane. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se dit, comme quoi tout vient de l'islam, enfin d'un caractère foncier de l'islam, ce n'est pas du tout le cas. Il y a bien des tendances, effectivement, dans le monde islamique pour aiguiser cette opposition. Mais je crois que le monde européen, dans sa justification du colonialisme, a beaucoup fait pour souligner cette opposition, et même au-delà de choses réelles. Que vous dire encore à propos de...
Rachida Mansour.
Si vous me permettez une remarque, oui, deux choses à propos de l'enseignement et des langues. Il serait peut-être intéressant de vous demander confirmation que la France coloniale a d'abord tout fait pour annihiler, pour ne plus faire exister les formes de transmission du savoir qui se faisaient en arabe jusque-là, y compris sous la régence turque. Donc ils ont d'abord détruit totalement. On parle de 20% d'analphabètes en 1830 et de 80% en 1962. Et ensuite, quand avec Jules Ferry, qui n'a pas dit que des choses intéressantes, qui a peut-être ouvert l'école, mais qui était un colonialiste fervent, Jules Ferry, quand il a rendu obligatoire l'école, c'était pour une minorité infime d'Algériens. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale qu'on peut parler de scolarisation relative.
Oui. Et s'il ne l'a fait, si Jules Ferry a fait ça, et l'administration française en général, c'était pour avoir des auxiliaires lettrés en français et susceptibles, entre guillemets, d'asseoir, de justifier la colonisation. Donc ce n'était pas du tout désintéressé ou pour la civilisation. Plus tard, cette tactique, disons, ou stratégie, s'est retournée contre le colonialisme, puisque cet enseignement nous a donné des armes pour la libération et pour remettre en cause, au nom même des valeurs, de certaines valeurs républicaines, démocratiques, universalistes, nous avons combattu le colonialisme au nom même des propres valeurs de l'Occident. Du moins les valeurs démocratiques. Parce que...
Moi, j'avais toujours beaucoup aimé cette réflexion de Mustafa al-Sharif qui expliquait que une des raisons de l'éveil nationaliste reposait sur la contradiction que la France se présentant comme la France des droits de l'homme, comme la France de terre d'accueil, terre d'asile, etc., faisait absolument le contraire en Algérie, en écrasant, en opprimant la population. Et donc, ce discours qu'elle voulait transmettre par le biais de l'école était totalement contradictoire avec le vécu concret des gens. Et ça, il ne pouvait pas y avoir de meilleur outil que celui-là.
Oui. Et lorsque le président de la République française, Vincent Auriol, je me souviens plus si c'est vers la fin des années 40 ou début des années 50, ils ont fait un effort pour ouvrir en plus grand l'accès de l'école. C'est-à-dire, à l'époque, si auparavant les parents algériens essayer de faire pression, verser des bakhchiches pour que leurs enfants n'aillent pas à l'école. Là, c'était vraiment la course, y compris pour que leurs enfants puissent. Il y avait des files énormes. Et là, ils ont ouvert plus ou moins, mais toujours avec cet esprit que d'avoir une génération qui soit qui défendent les...
Des auxiliaires,
voilà,
comme vous
des
le disiez.
Auxiliaires.
Et concernant M. Sadr Hajros, concernant les filles, l'école des filles.
Oui, alors pour les filles, évidemment, l'évolution s'est faite progressivement. Il n'y avait pas beaucoup de filles scolarisées, c'est sûr. Quand quelques filles étaient scolarisées dans un village, par exemple, c'était vraiment singulier. Je prends l'exemple de l'Erba Abni Moussa ou de Barwaghiya. On les montrait du doigt, quelquefois, avec un brin de...
Enfin, c'était un peu comme s'ils avaient trahi.
Oui,
déjà.
Un peu comme... voilà. Parfois même de dérision, enfin on disait tiens, voilà, les filles du Cadi ou les filles de...
Oui, parce que c'était généralement réservé aux grandes familles, voilà. Aux familles de grands-tons.
Mais plus tard, les filles, donc parce qu'il y avait le poids de la société là, qui laissait sortir les filles. Je prends un exemple, je prends mes sœurs. Hein. Mm-hmm. Alors au fur et à mesure des années, la première est pourtant famille d'instituteurs, hein, mon père. La première est allée jusqu'au certificat d'études. Pourtant, nous habitions dans l'enceinte de l'école. Hein. Il n'y avait pas la difficulté que les filles traversent le village pour aller à l'école.
Pas à traverser.
Donc
la
première est allée jusqu'au certificat d'études, la seconde jusqu'au brevet, la troisième jusqu'au bac, et la quatrième, elle a fait des études de sage-femme à l'université.
Oui.
C'est vraiment typique. Ceci dit, dans l'enseignement arabophone également, il y a eu cette progression et l'enseignement des médersas, dont certaines, la majorité, étaient animées par l'association des ulamas. Il y avait d'autres qui étaient patronnées par le PPA, MTLD. On fait une place aux filles, une place substantielle. Et Ben Badis en particulier a vraiment fortement encouragé l'éducation des filles.
Y compris celle de sa propre famille. Il a commencé par ses
soeurs. Sa propre famille. Donc c'était déjà un grand pas en avant.
Ouais. C'est pour ça que je trouve, si tu permets, je trouve très intéressant dans le livre de M. Hajjaz, justement ces longues descriptions et du mouvement des ulamas et du personnage Ben Badis que enfin vous montrez bien qu'il est quand même très particulier dans ce courant lui-même traversé par différentes tendances, mais en tout cas c'est bien parce que la France commence par tout raser que les Algériens étaient en attente de nouvelles structures pour apprendre. Oui. Et ça explique, et ça, j'ai souvent remarqué que les jeunes ne le comprenaient pas toujours, ça explique pourquoi le recouvrement de la langue arabe était si important, pourquoi il a fait partie des revendications.
Tout à fait. Tout à fait. Et on peut dire que l'esprit d'insurrection, de rébellion, était alimenté conjointement et par l'école française avec toutes ses limites, toutes ses déformations, et l'école arabophone. Et les générations, c'était pas un niveau, on parle numériquement, mais si on prend les insurgés de novembre, enfin des biographies individuelles, on se rend compte qu'en général, la moyenne, c'était ceux qui avaient le certificat d'études, maximum école primaire supérieure, mais ça a été vraiment des cadres du mouvement politique et du mouvement insurrectionnel.
Nous profitons donc de la présence de M. Sadr Hajjaz à Alger. Et il y a une thématique qui nous tient à cœur, c'est la question de la culture, du mouvement associatif, qu'il soit sportif, culturel, les SMA, les ulama. Si vous voulez bien, on va un peu évoquer avec vous cette floraison de mouvements associatifs et l'impact des partis politiques sur ces associations-là.
Oui, vous faites bien de souligner l'importance du mouvement associatif. Je considère, ce n'est pas un a priori, mais c'est un constat qui reste valable d'ailleurs, à mon avis, à toutes les époques que nous avons traversées depuis les années 40, à savoir que le mouvement associatif de toutes sortes, et notamment culturel, au sens large du terme, c'est le soubassement du mouvement politique. Et comme résultat d'un travail de la société sur elle-même, c'est ce qu'on néglige en croyant que la politique surgit du néant. En fait, il y a vraiment, ce que je disais, un travail souterrain qui est pas toujours forcément organisé. qui se produit à l'insu même des individus, des collectivités, et qui fait que les consciences évoluent jusqu'à la prise de conscience que les changements souhaitables doivent être faits. Mais il faut un niveau culturel. Je voudrais en passant dire que éclairer cette interaction entre le culturel et le politique à propos de cette fausse querelle qu'avait initiée Malek Bennabi en disant que la colonisabilité, à savoir que pour se libérer, l'engagement politique non seulement n'était pas nécessaire, mais qui était nuisible. Ça allait jusque-là, parce que au point que les associations, y compris des ulama et autres, ont condamné ce point de vue, parce qu'ils reprochaient aux ulama de s'intéresser à la politique. En fait, les deux choses sont liées. Ils prétendaient que il fallait d'abord éduquer les gens, etc., lorsque tout le monde sera instruit, etc., il y aura une libération, peut-être spontanée, entre guillemets. En fait, ils négligeaient le fait que l'action politique elle-même est un élément d'élévation de la culture.
Absolument.
Lorsque il y a eu la montée du mouvement national, les mentalités des gens ont évolué. Il y avait un besoin, une soif de culture. Il y avait une soif de... Donc, il y a une interaction entre les deux. Dire que c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Les deux choses sont très, très liées. Et effectivement, à l'époque que je décris, là, dans les années 40, bien entendu, auparavant, il y avait les pionniers du mouvement politique qui étaient réprimés. Mais ils restaient malgré tout une minorité. Une minorité courageuse qui avait un impact réel dans le discours de Messali en 36 sur le stade. Ça correspondait bien et bien d'autres exemples de ce genre. Mais vraiment, le mouvement national, la revendication nationale a grandi dans les esprits à partir du moment où, en liaison avec les évolutions internationales, le débarquement américain, la guerre mondiale, la défaite de la France. Donc, en même temps, il y a eu ces facilités et cette volonté de développer un mouvement, qu'il soit sportif, qu'il soit théâtral, qu'il soit vraiment toutes sortes d'activités. L'évolution du théâtre aussi. À Berlouaguilla, j'étais tout jeune, il y avait Mahedin Bastarzi qui commençait et Keltoum faisait ses débuts à ce moment-là. Alors nous, on était
D'ailleurs, il y a une photo magnifique de Keltoum et la photo que l'on connaît devant. De Bastarzi.
Donc voilà, il y a cette interaction, une fois de plus, que je souligne. Et évidemment, il y avait donc intérêt pour le mouvement nationaliste, intérêt à développer les activités culturelles. Et c'était le fait aussi bien des organisations nationalistes, PPA, UDMA, que des organisations communistes. Le journal Liberté, par exemple, c'était le seul à avoir une page culturelle très fournie, avec à la fois des troupes théâtrales arabophones ou berbérophones ou francophones. Beaucoup d'artistes ont émergé avec l'encouragement des communistes algériens à ce moment-là. Béchir Hadj Ali, entre autres, a joué un rôle, il était proche de l'ANQA. Et la municipalité de gauche, municipalité Tuber à l'époque, c'est elle qui a ouvert le conservatoire plusieurs de ceux qui allaient devenir des vedettes, des chanteurs, y compris l'ANQA, y compris.
À partir du moment où celui qui opprime a intérêt à diviser, a intérêt à isoler tout en semant une misère commune, il se crée automatiquement le besoin de se retrouver, de se réunir. Et donc, sous quelque forme que ce soit, ça devient une espèce de revendication identitaire. Oui. Nous, on n'a rien à voir avec vous. Oui. Enfin, l'Algérie n'est pas la France.
Oui, on peut dire, en enchaînant, que quand la vie culturelle s'enrichit, c'est le mouvement politique progressiste qui se renforce. Et inversement, l'affaissement de la conscience politique collective, etc., correspond toujours en même temps à un affaissement des efforts culturels, du niveau culturel. D'où l'importance aussi du travail culturel.
Alors, M. Sadak Hajres, vous étiez donc à la tête au niveau de l'Erbaa, de la section des scouts musulmans algériens. Est-ce que vous vous rappelez de l'hymne national des SMA ?
Que chef ou heya ?
On peut avoir une petite strophe ?
كشف هيا طلق المحيا أدي إلى الهدى رسالة الفداء. Bon, j'avais une voix beaucoup plus.
toujours...
C'est moi qui enseignais ça.
Elle est toujours...
Entre parenthèses, les paroles nous paraissaient assez fermes, enfin
oui,
hermétiques, parce que c'était en arabe
classique.
Il y avait un passage qui était parlant là. Min kulli jinsin min kulli din. C'est-à-dire le scoutisme de toutes les... Ça se comprenait.
Oui, de toutes les races, de toutes les religions.
Voilà, donc c'était un... Mais à part ça, je dois dire que... Par contre, il y avait des chants scouts, en arabe populaire en particulier, des chants patriotiques. Plus ils étaient en langue populaire, et plus ils enthousiasmaient, enfin sur des bases beaucoup plus tangibles.
Voilà. La ferveur.
Autrement, c'était seulement le prestige de la langue faisait que bon, ça nous semblait enthousiasmant. Il y avait les chants libanais, d'origine libanaise aussi, comme Moutrini, etc. Mais le plus exaltant, c'était Minjibalina, parce que les paroles étaient très, très simples. Tout le monde les comprenait.
En tout cas, ce qui est frappant, c'est de voir, quand on rencontre, quand on a la chance de rencontrer des Moudjahidines, je parle surtout des hommes parce que je ne crois pas que le mouvement scout ait eu l'occasion de s'adresser à des filles. On est étonné de voir le nombre de nationalistes qui sont passés par l'école des scouts.
Absolument, c'était une pépinière. Oui. C'était une pépinière de militants et de cadres pour le mouvement. Pratiquement, d'ailleurs, il y avait une espèce de courant naturel, normal, parce que le contenu lui-même des activités du scoutisme était à la fois patriotique, du point de vue des valeurs morales, la solidarité, l'honnêteté, etc. Et en même temps, il y avait une formation qu'on pourrait appeler paramilitaire, mais au sens... mais c'était...
de préparation physique.
On ne transgressait pas le scoutisme traditionnel, tel que enseigné par les Européens, par... Baden-Powell, etc. C'était des objectifs militaires, en fait, qu'ils menaient bien. Nous nous sommes appropriés de cette... Je vous dirais que, d'ailleurs, mon initiation au scoutisme, qui m'a facilité ensuite l'activité à l'Erbaa, c'était lorsque j'étais au collège de Blida. Il y avait un condisciple israélite, juif, qui était à côté. Ils étaient brimés à cette époque-là. D'ailleurs, ils ne tarderont pas à être renvoyés. Mais ils se défendaient par leurs associations, et en particulier les éclaireurs israélites. Et il avait un livre de l'éclaireur. Je le voyais avec beaucoup de curiosité. Je lui ai emprunté, avant que se crée le mouvement scout à l'Erbaa, je lui ai emprunté et je dévorais ça, évidemment. Ça m'a donné les éléments qui m'ont permis de... La finalité du mouvement scout... En fait, c'est être au service de la société, et de nature pacifique dans des conditions normales et de nature
guerrière,
beaucoup plus guerrière
partisane.
En période. Voilà. Et par la suite, Kerem Issoumazir également.
Alors justement, comment c'est Kerem Issoumazir, le chant?
Oui.
Comment pouvez-vous nous donner une petite strophe aussi? On peut en profiter.
Kamis ou Mazir, Itijan, Arioulid, Atasaya, Gourfazir, Egman, Nouvan, Artezir.
Kamis ou Mazir, Itijan, Arioulid, Atasaya, Gourfazir, Egman, Nouvan, Artezir. Kamis ou Mazir, Itijan, Arioulid, Atasaya, Gourfazir, Egman, Nouvan, Artezir.
الباس بزرار يكرده الزفر وان يسادر برشاك في السخين هذاك نيس ودس يسمى راكيد السكران اوالة تصبح تسمى شتين اصناف تصبح تترقض مزيت ولن اسم تتسلم هذاك ينام
Nous avons eu, Souhaïd, la chance extraordinaire de rencontrer M. Sadak Hajres à l'occasion d'un voyage qu'il a fait récemment à Alger pour présenter son livre, en fait.
Oui.
Quand une nation s'éveille.
Oui, son livre donc, qui est sorti officiellement lors du dernier Salon international du livre d'Alger, voilà, le SILA. Et pour revenir donc justement au rôle et au travail des SMA, des scouts musulmans algériens, ben, Lamia Mahfouf a déniché quelques témoignages, et pas des moindres d'ailleurs, et c'est dans Bekri.
الفكرة ديال بوراس ما غابتش عليه يعني باش يكون شبيبة تكون تحضر نفسها يعني للكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي باللباس الكشفي وشاشية اسطنبول يعني لو كاشي الجيريان الاناشيد كلها ترمي الى بعث الروح الوطنية فينا.
Le scoutisme a commencé par être à attirer les jeunes Algériens parce que il y avait une tenue, il y avait un drapeau, il y avait des activités qui à l'époque pouvaient ressembler à des activités paramilitaires. Et dans l'atmosphère de la jeunesse algérienne de l'époque, une jeunesse qui cherchait sa voie, une jeunesse qui était attirée par l'éducation religieuse des ulamas, qui était attirée par les appels nationalistes de l'étoile nord-africaine et ensuite du PPA, il y avait un désir de renaissance qui coïncidait avec tous les désirs de renaissance que l'on constatait sur le plan du mouvement sportif, sur le plan du mouvement des médersas et même sur le plan politique avec l'organisation du Congrès musulman et par la suite le développement de l'étoile nord-africaine et donc du nationalisme.
إذن قمت بدور السفير كانت هذا المؤتمرات العالمية فيها غير الكشافة الفرنسوية فحضور الجزائر سواء في أوروبا وإلا في العالم العربي لأنه كان أيضا كان لأول مرة صوت الجزائر يرتفع في هالمؤتمرات الكشفية بواسطة الجيل اللي قام بالحركة الكشفية في هذا الحركة
أوت 47 هذا جمهوري وتجمع كل يقع كل 4 سنوات على مستوى العالم عينونا قاعدة 4 فرق الفرقة نتاع الغرب يسموها الأمير عبد القادر عينو من العاصمة بودوا ولا يرحمو أبو داو ولا يرحمو عمر أبو داو الصيف محمود بن محمود ولا يرحمو وعندنا با نوار مع القرانية مشينا في 4 ركبونا في باخرة حربية يسموه جورج ليك جينا نركبو جابوا لنا علامات فيها فرنسا اتفقنا ولا واحد يعملها احنا نعملو الجزائر.
En ce qui concerne le scoutisme, en novembre 54, l'association a été surprise, comme toutes les autres associations, par le 1er novembre. Même de l'organisation nationaliste, le PPA, le MTLD, l'UDMA ont été surpris. Il n'y avait que les responsables, les cadres de l'organisation spéciale de l'OS qui étaient au courant et qui ont lancé le 1er novembre.
Merci Lamia Mahfouf. Tu es d'emblée inscrite dans le mouvement en tant que Morshida. Hein
oh, oui, carrément. Oui, carrément. Éclaireuse.
Éclaireuse, c'est pas mal. Donc voilà, on aura, concernant le premier intervenant, Rachida, il s'agissait de Monsieur Mohamed Reda Bastanji, voilà, qui a été longtemps
un des dirigeants,
longtemps commissaire général des SMA. À l'indépendance, il a été journaliste, il a occupé par la suite de nombreux postes, dont le secrétariat général de l'agence Presse Service. On a reconnu le second intervenant, l'historien, donc Mahfoud Qaddesh, voilà. Le qui est très connu évidemment, qui a écrit de nombreux ouvrages hein, sur l'histoire de l'Algérie. Le troisième intervenant étant Monsieur Amar Bentoumi, donc avocat, qui a été le premier ministre de la justice à l'indépendance et qui est l'auteur d'ailleurs de 2 livres au moins, à ma connaissance, un sur la naissance de la justice algérienne, paru chez Casbah en 2010. Le second, Crime et infamie, la colonisation vécue par un Algérien, 1923-1962, toujours chez le même éditeur, en 2013. Voilà. Ensuite, nous avons eu comme intervenant Abdelhamid Mahri, un politique, donc longtemps à la tête du parti du FLN, du moins de 1988 à 1996. Il a été ministre auparavant, etc. Et on termine avec, on fait un retour avec Mahfoud Qaddesh. Voilà. Alors, Rachida Mansef, justement, sur concernant le, c'est ce que vous avez dit au début, concernant les scouts, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 22 qui sont réunis donc pour décider de passer à l'action, tous étaient de l'os. Ça, vous l'avez dit, effectivement. Mais tous étaient de l'os. Et 18 étaient passés par le mouvement scout. Mmh. 18. Et Lies Derrich, d'ailleurs, a été chef scout du Clos Salambier, bon, actuellement El Madania. Voilà. Donc, concernant, effectivement, ce mouvement...
Oui, c'est étonnant de voir Aït Hamdi passer par là, Didouche Mourad, l'Arbi Ben Mehdi... Non, vraiment, tous les grands dirigeants, et effectivement, parmi les déclencheurs, la plupart étaient passés par les scouts musulmans algériens, puis ensuite par le PPA.
Oui, d'accord, Fatema Sabri, arrête de gesticuler, on va céder l'espace à Abdou Sayah.
La terreur.
La terreur, vraiment. Hein. Donc, Abdou Sayah qui a rencontré Riyad Kasri, fils de Warda El-Jazairia, et c'est dans
Art et Révolution.
Oh là là, belle surprise. Oh.
Elle nous a quittés sur la pointe des pieds. Lorsqu'elle chantait, les mélomanes étaient aux anges. Aujourd'hui, ce sont les anges mélomanes qui doivent être ravis. Warda El-Jazairia, l'une des dernières voix sacrées du panthéon musical arabe. Les admirateurs pleurent encore la rose d'Algérie. Warda El-Jazairia. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cette grande dame qui a marqué des générations. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous en parle, puisque je suis en présence de son fils Riyad Kesri. Merci beaucoup exceptionnellement pour cet hommage pour votre maman.
Merci à vous.
Warda El-Jazairia a eu trois terres d'accueil et d'amour. L'Algérie, le Liban et l'Égypte.
Oui, tout à fait. Mais si on doit commencer chronologiquement, il y a eu d'abord Paris où elle est née. Je mentionne Paris parce que je ne peux pas occulter cette dimension dans la composition du personnage culturel qu'est Warda. C'est vraiment avant tout d'abord un héritage jazairi, chewi, de par son papa, et aussi un héritage charqi avec sa maman libanaise. Née à Paris, donc elle est imprégnée d'une culture, d'une exposition à l'Occident, qu'on le veuille ou pas. Et c'est ce qui fera d'ailleurs plus tard, quand elle sera en Égypte, c'est ce qui fera sa distinction par rapport aux autres chanteuses.
On a souvent rendu hommage à Warda la chanteuse. C'était une artiste, une chanteuse très illustre. Mais on oublie que Warda a été avant tout une militante. Très jeune et avant sa majorité, elle participait au combat de la Fédération de France pour l'indépendance de l'Algérie.
Employer le mot participer au combat, ça peut prêter à équivoque. Et je ne veux pas que demain les historiens nous disent non, comment, attention, bon, il faut être précis. En fait, effectivement, oui, disons qu'elle a contribué, elle a apporté sa touche. Je raconterai une petite anecdote. Warda est au Caire en 1959. Elle en a marre du milieu artistique, c'est pas évident d'être responsable de toute une famille, parce que bon, ses frères et sœurs vivaient avec elle en Égypte. Vous savez, obtenir des contrats, des concerts, c'était loin d'être évident à l'époque. Et lasse de tout ce milieu, elle va voir monsieur Ali Kafi à l'époque, qui était notre ambassadeur, qui était au Caire. Allah rahmou, il vient de nous quitter. Elle va le voir et lui dit, écoute, voilà, c'est Ali, moi, j'en ai marre de ce milieu. J'ai envie de rejoindre le maquis. نحب نروح جو في علي سواني لي المجاهدين في في الجبهه وكيما هنا كيما الممرضات الاخرى كوم كوم لي زوت انفيرميير بون يلا ريغاردي Il a dit qu'est-ce qui se passe. Il a dit écoute voilà ça va pas c'est pas évident c'est pas facile j'arrive pas à joindre les deux bouts avec les portes sont fermées c'est pas évident. Il lui a dit écoute voilà je vais sur mes fonds personnels je vais te donner une petite aide financière et ça c'est des propos que ma mère m'a rapporté. Hein. Donc il lui a remis une enveloppe où il y avait une somme d'argent. Il lui a dit écoute Warda on a plus besoin de toi. Avec ta voix, tu contribues beaucoup plus avec ta voix à chanter la révolution, à faire connaître Thawra Interna, plutôt que de t'envoyer comme chair à canon sur le front. Tu seras certainement moins utile sur le front qu'ici ou ailleurs à chanter la révolution. Subhanallah, elle a pris cette enveloppe et le lendemain, elle a eu une proposition de concert. Le lendemain, elle est retournée à l'ambassade et lui a dit « Tfaddal, je vous rends votre argent, si Ali, je viens d'avoir... un contrat. Donc effectivement, bon, on connaît moins le côté patriotique. Certaines chansons comme Saïdon il Jibel, Nida Damir et Kuluna Jamil et d'autres ne sont pas connues de la nouvelle génération. Warda, c'est Betwen Esbik, etc. Les gens de l'ancienne génération savent que Warda a chanté. Il suffit de mentionner quelle a été la réaction de Jamal Abdel Nasser. Quand, à sa demande, un couplet a été rajouté à la chanson « Al-Watan al-Akbar » qui a été interprétée par Warda. Comment à la fin de son interprétation, il lui a dit, avec sa voix et sa stature, « Ahlan bi-Jazair ». Donc, c'est un parcours qui a d'abord et avant tout commencé, imprégné par l'Algérie et par la révolution algérienne.
Lorsqu'elle chantait, en tous les cas, à Paris, dans ce lieu où se rencontraient pratiquement ces Algériens au quartier latin, elle était très jeune et toutes les recettes allaient, c'était pour le FLN à l'époque.
Effectivement, elle a fait d'ailleurs aussi une tournée. Elle a fait une tournée qui l'a amenée en Tunisie et au Maroc, de concerts où les recettes allaient au FLN. Et c'est d'ailleurs suite à cette tournée qu'il y a eu... une condamnation à mort.
Warda, la militante, qui a commencé à chanter pour l'Algérie, qui a terminé en chantant pour l'Algérie avec la chanson Mazal Warfin.
Oui, Mazal Warfin. En fait, c'est vraiment... Là aussi, c'est un autre... Je ne sais pas, c'est une coïncidence. Une des premières chansons de ma mère, c'est Yal Mrouh Al-Bled. Donc, elle ne connaissait pas encore son pays. Elle n'y était pas encore allée. Et elle chante l'Algérie. Donc, elle a à peine 11 ans, Yal Mrouh Al-Bled. Elle a envie de découvrir ce pays, mais tout ce qu'elle connaît de ce pays, c'est à travers son père, ce que son père lui en dit. Et puis la dernière parole que Warda dit, c'est, elle l'enregistre en mars 2012, « Nwosekoum yaouladi, hamouhabladi ». Donc la première parole, c'est l'Algérie, la dernière parole, c'est l'Algérie. C'est une boucle, en fait. La boucle est fermée, et entre-temps, donc, il y a eu toute cette carrière. Mais ça part de l'Algérie, et ça revient vers l'Algérie. هلت على وطني بفجر جديد عيد الكرامة والفدا يا عيد يا عيد يا عيد هلت على وطني بفجر جديد.
Merci Abdou Sayah pour ce si beau témoignage. On vous retrouve toujours avec un plaisir renouvelé la semaine prochaine. Rachida Mansaf, Warda Al-Jazairiya.
Oui, c'est dur de s'arracher à cette voix et je me dis, bon, en tout cas, elle a donné également une voix à son fils qui est phénoménale.
Ah ça, oui, Fatema Sabri est tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Rachida Mansaf. Alors, on cède la place à Dahou Jarbel et à...
Oui, avec Badia grand plaisir, Hedet. En les remerciant d'avance.
Voilà, qui remettent quelques points sur les « i ». Concernant quelques séquences d'histoire, c'est tout de suite dans Terihouna.
Terihouna.
Donc... Finalement, dès que la France débarque 1830, elle démontre hein, qu'elle est vraiment venue... Parce que c'est cette question qui revient à chaque fois dans les propos des Français, mission civilisatrice,
Un petit commentaire là-dessus, monsieur de Houdjerbal.
Oui, bon, mais il faudrait peut-être se détacher un peu des déclarations des uns et des autres, mm-hmm. parce que pour pouvoir voir les faits sur le terrain et rien que les faits. Comme je vous ai dit, il y a toute une période qui est une période de conquête sans phrase. La conquête de l'Algérie n'est pas un dîner de gala, je vous l'avais dit la première fois. Donc c'est une politique qui vise à détruire toute forme de résistance.
Et ce fameux, peut-être un petit mot, parce que vous me disiez que c'était peut-être en annexe, ce fameux trésor qu'on devait... Péon avait écrit un livre autour de ça, ouais. Le trésor d'Alger. Et qu'il y avait même un rapport en disant que dans ce pays-là, on allait trouver, dans cette régence d'Alger, on allait trouver des grandes richesses. Est-ce que c'est réel? Est-ce que vraiment ils sont venus après?
Il y a effectivement des relations de fait par les généraux français, par aussi certaines autorités qui étaient présentes à ce moment-là. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que il y avait le trésor public, si on veut, hein, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le trésor public. C'est-à-dire une sorte de lieu où étaient conservés l'ensemble des impôts et des revenus levés dans les trois beyliks. Et chaque année, il y avait une procession qui venait d'Oran, de Constantine ou de Médéa pour verser dans le trésor public le produit de l'impôt dans la région.
Et ça, c'était le trésor d'Alger.
C'était le trésor d'Alger, c'est ça. Mais en fait, on dit le trésor d'Alger comme si c'était un roman de guerre et d'épée. Non, c'est pas quelque chose, c'est pas une fiction. C'est une réalité. Comme tout État normalement constitué, il y a une réserve fédérale, comme aux États-Unis. Il y a un trésor public.
Est-ce qu'au moment où la France débarque en Algérie, donc. Est-ce que ce trésor était important?
Il était relativement important, puisqu'on n'a pas d'évaluation au juste. Pourquoi? Parce que les premières colonnes militaires, à la tête desquelles il y avait les généraux commandant les troupes, donc ont occupé la ville d'Alger, ils ont occupé la Casbah, ils ont occupé la forteresse qui se trouve à Babjdid. Et là, il se trouvait donc le budget de l'État. Et certains se sont servis. C'est-à-dire certains généraux, certains officiers, parfois certains soldats se sont servis sans l'inscrire dans leur registre. Donc au fond, il y a eu un pillage. Et ce qui a été transféré en France n'est qu'une petite partie de ce qui existait en Algérie.
Donc, mais le reste a été...
Certains ont fait fortune avec ce
trésor d'Alger qu'on avait...
Voilà, c'est pour ça qu'on a parlé de trésor d'Alger, mais ça devient anecdotique, si vous préférez.
D'accord. Alors on avance. À partir donc de quelle date, M. de Houdjerbal, on peut dire que la résistance à l'occupation française prendra plus la forme d'une lutte politique?
Alors effectivement, si l'on peut résumer très rapidement tout un siècle de résistance.
Pas résumer, on a toute une saison,
parce que les résistances n'ont jamais cessé, en fait.
Dès le départ.
Depuis 1830, depuis le premier jour de l'occupation jusqu'au dernier jour de l'occupation.
Ça, c'est le peuple, monsieur de Houdjerbal.
D'accord, oui, mais aussi, le peuple, c'est en fait, lui, le sujet de l'histoire. Il n'y a pas d'autres qui résistent.
Oui, mais le deuil d'Alger...
Nous en avons parlé
il est parti.
Autant celui d'Alger que celui d'Oran. Celui de Médéa, de Titri, a légèrement résisté pour une période très courte, et puis il a cédé ensuite. Donc au fond, la résistance est une résistance de ceux qui vivent sur cette terre, et de cette terre, ceux à qui appartient cette terre, et qui se reconnaissent dans cette terre.
Est-ce que dans vos recherches en tant qu'historien, M. de Houdjerbal, vous avez dû peut-être rencontrer des témoignages donc, d'Algériens qui ont refusé dès le départ de subir ce diktat français?
Absolument, oui. Alors, ceux qui ont refusé, et c'est ça le grand paradoxe de l'histoire, ceux qui ont refusé, c'est pas seulement à titre individuel, c'est principalement à titre collectif. Ce sont des communautés villageoises, ce sont ce qu'on appelait à l'époque des qaba'il wa ashayr, donc ce que les Français appelaient des tribus. Et ceux-là, dès qu'ils ont été réduits par la force, on leur a tout confisqué, biens meubles et immeubles. Donc au fond, tous les dirigeants des résistances ont subi la loi du vaincu. Donc certains ont été déportés, d'autres ont été bannis de leur propre terre, d'autres ont été exécutés, et ceux qui sont restés ont tout perdu sauf l'honneur, comme on dit.
Ils sont restés dignes.
Absolument. Et ça, j'insiste sur ce point, c'est qu'en fait, c'est une défaite relative, parce que ce qui est resté, ça va être l'esprit de la résistance. Et l'esprit de la résistance va être transmis de père en fils, de mère en fille. Et ça va rester dans la mémoire collective. Et donc, il y a ensuite, et tout en même temps, parallèlement, il y a la collaboration. Mais dès le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire dès 1830 jusqu'à 1962. Les formes de la collaboration ont toujours existé. Soit par des notables, qui se considéraient comme des chorfa, ou soit par des confréries qui ont cédé devant l'autorité de la France, soit par des corporations et des chefs de corporations qui ont voulu continuer à maintenir leurs privilèges.
Comme les radis également, M. Dehazabad.
Et aussi quelques radis, quelques représentants de des biens habous ou
mais justement quel était mais quel était réellement le rapport de la France avec ceux
France
qui ont dès le départ voulu collaborer.
La France avait besoin d'eux pour administrer, pour gérer les affaires quotidiennes. Donc certains ont considéré que il était tout à fait normal de continuer à obéir à un pouvoir central, même si ce pouvoir central avait changé de pouvoir ottoman à pouvoir français. Donc ils ont continué leur service. Ce sont des forces auxiliaires de la France pour l'occupation de l'Algérie. Or, cela, parfois, n'avait ni autorité ni légitimité. Et c'est la France qui leur a donné l'autorité, qui les a appuyés par les armes, qui les a appuyés par la force pour pouvoir s'imposer aux populations. Ce qui fait que dès le début de l'occupation française, pour certaines fraction de la population, pour certaines notabilités, il y avait l'autorité sans légitimité. Mais ceux qui ont résisté, ils n'avaient plus d'autorité, mais ils avaient la légitimité de la représentation du peuple.
Et donc, le germe de ce sentiment nationaliste, est-ce qu'il va se préciser
C'est petit à petit que nous arrivons au XXe siècle. Avec le début du XXe siècle, il va y avoir un grand événement qui va constituer un tournant historique, c'est la Première Guerre mondiale.
La Première Guerre mondiale, on laissera ça pour une autre fois, Monsieur Dehoudjerba.
Absolument.
Je vous remercie. Au revoir.
Merci Badia, merci Dahou, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Et pour la dernière minute, avant de nous quitter...
Je voulais juste ajouter une... Non, c'est juste une petite précision. Badera avait évoqué le fameux pillage du trésor public tout à l'heure avec Dahou. C'était juste pour dire que ce livre, donc, écrit par le journaliste Pierre Péan, a été édité par Chihab en 2005, mais qu'il est toujours disponible en librairie, sous le titre de « Même bas sur Alger, enquête sur un pillage, juillet 1830 ». Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter, sans plus. Donc, je vous laisse finir. Très cher Rachida Mansef.
Merci. Je voudrais vous rappeler notre page Facebook, qui porte le même nom que l'émission, donc Fashhadou, Histoire et Mémoire. Et nous vous demandons encore une fois de nous poser vos questions, de les poser à Dahou Djerbal et Badia, qui se feront un plaisir de vous répondre. Et puis de nous proposer vos contributions ou des contacts avec des gens que vous estimez intéressants à écouter, à interviewer. Et n'oubliez pas le site de la radio, www.radioalgérie.dz. Voilà. Et pour la dernière minute, dernière chronique, Souhadina a choisi une lettre que deux Algériens catholiques adresse au journal des scouts musulmans algériens La Voix des Jeunes. Il s'agit de Pierre Popy, avocat qui a défendu les détenus du FLN et qui fut assassiné par l'OAS, et Pierre Chollet, médecin, grand combattant devant l'Éternel contre la tuberculose, ce mal des pauvres. et qui fut rédacteur, entre autres, d'El-Moudjahed en Tunisie. Et c'est une lettre qui est un appel à la grande fraternité humaine.
La dernière minute.
Faisant suite aux vœux exprimés à diverses reprises au cours de l'une de nos réunions communes, nous vous proposons, au terme de cette année de recherche, la constitution pour l'an prochain d'un carrefour pour la coordination des mouvements de jeunesse algériens. Ce carrefour permettrait de poursuivre un dialogue dont nous sentons tous l'urgente nécessité et de rechercher les points précis et pratiques sur lesquels il nous est possible de travailler ensemble. Nous pensons que ce carrefour doit être suffisamment large pour que chacun d'entre nous puisse s'y sentir à l'aise. C'est pour cela que les bases d'accord qui nous semblent les meilleures sont celles que nous avons dégagées ensemble au cours de nos précédentes rencontres et que nous résumons comme suit. Nos objectifs communs doivent être de coordonner l'action des jeunes Algériens en vue d'édifier une communauté humaine dans laquelle pourront se retrouver et s'exprimer librement tous les Algériens en leur permettant de s'enrichir de leurs mutuelles différences. D'opérer un véritable rapprochement entre tous les jeunes par l'habitude du travail en commun et la confrontation franche et objective des points de vue particuliers en les amenant à dépasser les réactions conditionnées par des préjugés de caste et de race. Nous aurions désiré pouvoir nous réunir avant la fin de l'année, mais le Ramadan, le cortège des examens, nous incline à reporter dès après les vacances la réalisation de nos projets. Amicalement vôtre, au nom des jeunes catholiques, Pierre Popy, Pierre Chollet.
Il baise sur Guadalari, Kirdi, ou Zéferi, ou Ni, ou Sadar, ou Rhe, Kidi, Sekhwe. Ede, Kenisi, ou Lesi, Smera, Kidi, Sikirin, ou Alessit, ou Rhe, Kidi, غسما صد صغلا صد سرق وغمزل انت ولم ياسن تدسر لغم ذاكيني
أمي سوما زيغ طاج نار يولي الداتا سيا وصغلي صغلا نوفال نقزي أمي سوما زيغ طاج نار يولي الداتا سيا وصغلي صغلا نوفال نقزي
الباس بذرالي كردي هو زفري وان يسادر برشاك تسخين هذاك نيسي ولسي سماركي تسكرا اوالي تتصدش تسمحتين قصنا تتصد لا تترقض ما زلت ولم اسم تتسلم ما تكين
يسو مزيغ بيجنا ويجيد قاسيا والخزر يغفر النفار نعتزي يسو مزيغ بيجنا ويجيد قاسيا والخزر يغفر النفار نعتزي فرداني لك سبع ونصعد كثرت والد غاك ديت ولي أززوس وجدك صراغ ثولت دي شباحة متورتي كنتكين مرا تعدت كل سالك دي طفت شرط أكيح لسمك لي تذكين ميسو مزيغ ديشنا يريد قاسيا والخزر يغفر النغال نعتزي ميسو مزيغ ديشنا يريد قاسيا والخزر يغفر النغال نعتزي غفز زمر تشحال تسفرو تجدي تديك سنتي تتسيري احفيظ السيك سنت غصبا مخلاف انتشفو يذوق جنت مسمي ظلي تشيط وزمور الغور شلال تشنون حساسكني الهم بكثير ليسو مزير في جمار يجيب قاسيا ورص صغير سلم مغار معززي ليسو مزير في جمار يجيب قاسيا ورص صغير سلم مغار معززي نسيك هم ظلي دلش مقاد سيدي سن اتوالي ضصميك اكيد والين اهو سمل الديف اسمي فارقا وسن مملاب كل الشبار تفسين بحر انتك لا تكون بزور ذا حلوان يديك يوص الصوت اولين سارو مسيرة جمار يليد قاسيا ورص صغيرة لن نبال معززي سارو مسيرة جمار يليد قاسيا ورص صغيرة لن نبال معززي سارو مسيرة جمار يليد قاسيا ورص صغيرة لن نبال معززي سارو مسيرة